Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel. Alain Corneau, merci de nous recevoir. Votre livre Projection privée souvenir se lit comme on regarde un film, en tout cas un de vos films. Le lecteur est captivé, il y a de la musique, du bruit, des images, des sons, des paysages et surtout de l'émotion. L'émotion de l'apprentissage d'une vocation et d'un métier, l'émotion de la musique, l'émotion des succès et des échecs. Alors, qu'est-ce qui amène un cinéaste à se raconter? Est-ce que vos films ne vous racontent pas assez, comme le sous-entend Tabouki?
Si, je crois qu'il a raison. Jamais cette idée absurde, bizarroïde, serait née dans mon propre cerveau. Parce que, pour parler vite, c'est pas mon genre. Voilà. Un metteur en scène, il est masqué, il est derrière la caméra, et c'est pas la peine qu'il se raconte. Bon. C'est sous l'insistance de Daniel Berger, qui est un ami du lycée, donc de longue date, avec qui j'ai beaucoup... fait de pérégrination, et de sa fille, qui est scénariste, qui m'ont fini par me persuader. Ils m'ont dit, mais si, quand même, tu nous raconteras, on fera ça ensemble, et tout ça. J'ai fini par dire oui. Et puis après, en le faisant, je me suis pris un peu au jeu, et moi, je fais partie de la race des metteurs en scène qui ne revoient pas ces films. Bon, je les ai pas revus, d'ailleurs, à cette occasion. Mais par contre, ça a été assez doux, effectivement, de revivre ce qu'est le tournage, ils m'ont tiré les verres du nez, et de parler de quelques voyages, des rencontres, et je me suis aperçu qu'effectivement, bon, il y avait des choses qu'on pouvait raconter, quoi, voilà. Tout en restant très modeste, je l'espère.
Alors, on va un peu respecter la chronologie. Moi, j'ai d'abord été frappé dans la première partie du livre, sur la partie apprentissage, de voir la passion que vous aviez pour le métier d'assistant réalisateur, parce que vous avez commencé après l'idée comme assistant réalisateur. Et vous évoquez aussi la figure d'un grand homme du cinéma qui est Henri Hagel. Alors, vous dites qu'il avait commencé à intégrer clandestinement le cinéma dans ses cours de seconde. Mais je ne me souviens pas si vous étiez étudiant ou pas, mais vous dites ensuite de lui que son cours est une célébration lyrique, mais encore.
Alors là, ça s'est produit en préparation de l'IDEC, qui était donc l'ancêtre de la FEMIS, la seule école d'État du cinéma. Moi, venant d'un petit village, j'avais aucun moyen de rentrer dans le cinéma, donc je me suis dit, je vais faire l'école. Donc il y avait un an de préparation au lycée Voltaire, je me souviens, à Paris, et le professeur de cinéma, il y avait des professeurs de littérature, etc., mais il y avait un professeur de cinéma qui était Henri Hagel. Henri Hagel, qui était un chrétien, convaincu, très grand cinéphile devant l'Éternel, qui a beaucoup, beaucoup d'intérêt pour le cinéma. Mais comme il est mystique, il a effectivement ce côté célébration. C'est-à-dire que lui, il voit effectivement dans le cinéma une sorte d'immanence de la divinité. Il pense que le cinéma est chargé d'une mission que les autres arts n'ont peut-être pas. Je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus, hein, mais je pense que ça donne un personnage fascinant. Alors ce qui est merveilleux avec Henri Hagel, c'est que c'est un véritable passeur. C'est-à-dire qu'on s'est confronté à lui, nous, jeunes idiots, avec plein de théories dans la tête et plein de certitudes, Dieu merci, elles m'ont abandonné. On l'a contré, il a accepté, il est venu avec nous, et il a pénétré notre univers avec sa manière à lui, et j'en ai gardé un souvenir extraordinaire. Je pense qu'il a été très formateur à cause de ça. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui avait des idées assez précises, qui était un monsieur déjà formé, et qui était capable, même s'il avait dans la tête des idées très strictes, étant un chrétien, je veux dire, de pouvoir aller ailleurs et de pouvoir balancer dans d'autres cinémas. Voilà.
Vous dites que vous avez gardé le contact avec lui jusque très tard. Je ne sais pas s'il vit toujours ou pas, mais il prend des nouvelles de ses étudiants.
Oui, j'ai eu des nouvelles de lui. Alors, j'ai eu des nouvelles de lui parce que j'ai souvent parlé de lui. Quand on me dit, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je parle d'Henri Hagel, je parle d'autres personnes aussi. Et je sais qu'il le sait, et qu'il en est très ému, et qu'il m'a fait parvenir un jour un mot en disant, mais vous savez, je vous suis tous. Je sais à peu près tout ce que vous êtes devenus. Il est à la retraite depuis longtemps maintenant, c'est un vieux monsieur. Et c'est vrai que c'est un rapport un peu lâche, comme ça, un peu distant, mais qui continue à être plein d'émotions, oui, bien sûr.
Vous vous interrogez à un moment donné sur la recherche d'identité, qui est une question qui, à un moment donné, vous préoccupe, parce que vous constatez que tous vos films, en tout cas dans la première partie de votre filmographie, s'inscrivent dans la ligne du noir. Et vous dites, la recherche de soi-même n'est-elle pas ce qui nous donne l'appétit de film? Vous êtes-vous finalement trouvé?
Non. Non, mais cette question d'identité, je pense, alors ça m'est apparu que peu à peu, je pense que s'il y a eu une unité dans mon œuvre, ce que je ne sais pas, enfin dans mon œuvre, c'est un bien grand mot, dans les films que j'ai faits, il y a sans doute cette question, la question est centrale. Alors, la question pourquoi, alors pourquoi ça, je ne le sais pas. Est-ce que ça vient de ma date de naissance, 43, en plein milieu de la guerre? Est-ce que ça m'a perturbé? Est-ce que j'ai eu comme ça quelque chose qui a frémi en moi? Je ne le sais pas. Je sais en tout cas que le cinéma, de par sa force d'impression de réalité, C'est là où le cinéma a une espèce de force supérieure aux autres expressions, c'est qu'il donne une impression de réalisme, alors que c'est faux, extrêmement forte. Donc il est possible que quand vous êtes spectateur de cinéma, vous identifiez un personnage, donc un destin qui n'est pas le vôtre, et Dieu sait s'il peut être loin de vous, mais en même temps, à partir du moment où vous identifiez à ce personnage, je vais dire une banalité, c'est que c'est une partie de vous-même, si vous êtes capable de comprendre. Bon, premier point. Deuxième point, quand vous êtes sur un plateau, les comédiens, c'est incroyable, à part comment peut-on les définir à part qu'ils font un exercice d'identité ? Ils font ça. Alors, ils le font dans leur métier, dans leur façon d'être. Mais qui sont-ils exactement ? Ils sont le personnage, ils sont eux-mêmes, la question est toujours posée. Bon. Et le dernier point, c'est que je crois que, et là, je vais parler boutique, je vais parler du cinéma noir, cette question est centrale dans le cinéma noir. Et je dirais même sous l'aspect de qui est coupable, qui ne l'est pas. Je dirais que ça. Et la réponse est toujours ambiguë. Alors, maintenant, je réponds enfin à votre question. Je ne pense pas m'être trouvé parce qu'on ne peut pas se trouver. J'aime beaucoup la phrase de Montaigne qui dit « Il y a autant de distance entre moi et l'autre qu'entre moi et moi-même. » Je pense que ça, on ne l'apprend que peu à peu. Et je pense que cette leçon d'incertitude sur soi-même est extraordinairement bénéfique. Et je me méfie beaucoup des gens qui sont à la recherche d'une pureté. Je suis en train de chercher mon noyau intérieur. Ça mène à l'intégrisme. Il faut faire très attention. Je n'y crois pas une seconde. D'abord, le mot pureté, moi, il me fait fuir. J'ai très peur de ce mot-là. Bon, parce que pureté, ça veut dire impureté. Et alors là, le monde n'est pas divisé en pur et impur. Ça n'existe pas, ça. À part dans les religions bizarroïdes. Bon. Donc, cette multiplicité, apprendre à apprivoiser le sentiment de l'hétérogène en nous, c'est une très belle chose. Et ça, on le fait grâce aux autres et grâce aux films, sans doute. Parce que, dernier point là-dessus, ce qui est formidable en cinéma, c'est que c'est une œuvre collective. Nous, on est des artisans d'art. On n'est pas vraiment les artistes dans le sens d'un peintre qui a un geste. On est englué dans l'argent, on est englué dans une équipe dans le bon sens du terme. Le mot technicien, j'y crois pas, ce sont les collaborateurs artistiques, hein, et les acteurs en premier. Donc tout ça fait qu'on est obligé d'accepter cette extraordinaire incertitude et d'accepter que nous sommes faits de choses contradictoires et complémentaires. Je défie quiconque de savoir qui est dans une situation extrême, la manière dont il va réagir. Hein. Bon, tout le monde se surprend. Qui est peureux, qui est courageux, personne ne peut le savoir. Avant d'être confronté au truc, c'est bien malin, celui qui dit « je suis courageux » ou l'autre qui dit « je serais peureux ». Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai vu dans les situations un peu dures que j'ai pu vivre, le contraire se révéler. Voilà. Et moi-même, je peux réagir de manière complètement contradictoire par rapport à ce que je pensais. Donc, acceptons ça, acceptons les autres tels qu'ils sont et acceptons l'incertitude. Voilà. Et à ce moment-là, vous en porterez beaucoup mieux.
Alors, à travers tout le livre et toute votre biographie et toute votre filmographie, il me semble que j'ai aperçu deux constantes qui tracent comme un chemin balisé dans votre travail, la littérature et la musique. La littérature qui se situe, selon moi, davantage au niveau de la phase d'écriture du scénario, et la musique à partir du moment du tournage et du travail avec les comédiens notamment. On parle de littérature d'abord. Je voudrais vous demander comment écrit-on un scénario avec un écrivain. Parlez-nous, par exemple, de la façon dont vous avez travaillé avec Jim Thompson, qui est le romancier du numéro 1000 de la série noire, les 1275 âmes, 75 âmes. Et vous, le portrait que vous en faites est un portrait qui est inouï de ce personnage.
Parce que c'est un personnage inouï. C'était le dernier dinosaure de la littérature hard-boiled américaine. C'est quelqu'un qui avait vécu tout, les chats croisés, le parti communiste, la liste noire, qui avait une lucidité politique extrême. Quelqu'un qui était un enragé, qui hurlait de désespoir devant un gouffre, et cet hurlement provoquait le rire. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un d'absolument hallucinant. Bon, alors, le travail avec Jim, ça a été un travail sur un livre à lui, où lui, Jim Thompson, étant un peu apprivoisé par le cinéma, était capable de travailler avec moi. Voilà, bon, ça c'est une chose. Le film, c'est pas fait. Hein. C'est le premier film, c'est
pas encore.
Tavernier l'a fait. Coup de torchon.
En Afrique, il l'a situé en Afrique. Donc, votre film n'est pas encore fait.
Voilà, plusieurs années plus tard, Bertrand m'a appelé, m'a dit, est-ce que tu as toujours envie ? Je lui ai dit non. Il m'a dit, bah, moi j'ai une idée de l'adapter en Afrique. Bon, voilà. Donc ça a été fait. Alors maintenant, une partie de mes films, j'ai écrit les scénarios originaux, mais toujours en travaillant, après avoir écrit la première G, avec des auteurs ou avec des scénaristes. Ça, c'est un premier point. Par contre, à un moment, je me suis mis à adapter. Alors dans l'adaptation, il y a deux possibilités. Moi, quand j'adapte, ma seule originalité que j'ai, c'est que j'adapte un livre que j'aime entièrement. Donc en général, je demande à l'auteur de travailler avec moi. Là, vous avez deux solutions. Ou il y a des auteurs qui disent « oui, ça m'intéresse », qui sont capables de travailler quelqu'un d'autre. Il y en a d'autres que ça n'intéresse pas. Il y en a d'autres qui ne pensent le travail d'écriture que solitaire, ce que je comprends très bien. Dans ces cas-là, je leur dis « bon, ben, acceptez quand même que je vous donne de temps en temps le scénario pour voir où j'en suis. » Voilà, c'est tout. Maintenant, ça, ce travail-là avec un auteur... À partir du moment où les auteurs acceptent de travailler, c'est un travail de collaboration scénaristique, hein, c'est absolument rien d'autre.
Par exemple, vous avez travaillé avec Daniel Boulanger qui vous a dit « je suis ton valet et je fais le ménage quand tu t'en vas ». qui est une des extrêmes de la collaboration avec un écrivain. Et puis Pascal Quignard qui vous dit, je ne vais pas écrire un scénario, je vais écrire un roman, et à partir de là, tu feras...
Voilà, il n'y a pas de théorie, tout est possible, bien sûr. Daniel Boulanger, il a son œuvre littéraire, qui passe à mon avis en priorité dans sa tête, et puis il se dit valet de chambre du metteur en scène quand quelqu'un veut travailler avec lui, voilà, ou quand il accepte de travailler avec quelqu'un. Ça n'empêche pas qu'il soit totalement mobilisé au moment de l'écriture avec un scénario. Mais c'est un travail différent pour lui. Voilà. Après, ce qui est fascinant dans les adaptations, si vous voulez, c'est qu'on adapte l'histoire. Bon, ça, c'est une chose. Ce n'est pas ce qui est le plus excitant à faire, parce qu'on la dépose sur un papier, c'est rien. Ce qui est absolument fascinant, c'est de travailler le style du livre. Voilà. Pour moi, le mot adaptation veut dire quelque chose à ce moment-là. C'est au moment où on se penche sur la manière dont est fabriqué le bouquin. Pourquoi il fonctionne? Quels sont ses procédés? Quel est son style? Donc, quel est son secret? Et à ce moment-là, dans notre tête, à tort ou à raison, ça commence à être collectif quand on est sur un film, c'est on se dit comment on va transmuer en matériaux cinématographiques ce style-là. C'est-à-dire, à quoi correspond la façon d'écrire? Alors, parlons de Quignard. Quignard, il avait un style très bref, comme ça, très, très, très sec, très en fureur. Bon, puisqu'il dit que son seul espoir, non, sa fierté, ça aurait été d'être lu par des lecteurs du XVIIe siècle. Alors là, évidemment, il n'y arrivera jamais. Hein, bon. Mais c'était son idéal.
C'était une belle formule. Hein. J'espère être lu en 1640.
Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est une magnifique formule. Bon. Et on est arrivé à ça, plus la musique. On s'est dit, alors on va faire le film qu'avec des plans fixes. La caméra ne va jamais bouger. Voilà, on peut aller jusque-là. Hein, ce qui m'a fait très peur au moment du tournage, d'ailleurs. Mais bon, on a tenu le coup et on est arrivé jusqu'au bout comme ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire par transmutation. Et là, c'est à mon avis la vraie excitation du développement littéraire. Mais à partir de ce moment-là, l'auteur n'est plus en jeu. L'auteur, il peut travailler sur la formulation de l'histoire, sur la narration, sur la façon de parler des personnages, mais en aucun cas sur ce qu'avait être la vraie mise en scène du film. En fait, un scénario même très abouti, même écrit en collaboration avec l'auteur du livre, n'est pas du tout ce que va être le film. Le film lui-même peut être... S'il est fait par quelqu'un d'autre, il va dire complètement autre chose. Voilà. C'est là où est le grand mystère d'un scénario qui, en aucun cas, ne peut être une œuvre aboutie. Voilà.
Ce n'est pas une œuvre littéraire, le scénario, qu'on dise.
C'est une marche vers un film qui va venir. Mais pas plus qu'une préparation. C'est comme un repérage, c'est comme un casting d'acteurs. C'est exactement pareil. Alors, ça va un peu plus loin, bien sûr, parce que sans bon scénario, on a quand même du mal à faire un bon film. Mais ça peut arriver quand même. Hein, attention.
Point de départ, c'est l'histoire, de toute façon, d'un film.
Oui, quand même. Et quant au mariage entre roman et cinéma, personne n'a jamais fait le ratio, mais je pense que 80% des films de l'histoire du cinéma Occident et Asie confondus viennent de la littérature. Oui, je pense que son cousin Germain. J'ai l'impression que ne serait-ce que de la façon de raconter une histoire, une narration, d'avoir des personnages qui s'expriment, on est quand même très proche du cinéma, oui, bien sûr. Alors, quant à la musique, deuxième point.
Encore une question sur l'adaptation littéraire avant. Entre le roman et la nouvelle. Parce qu'il me semble que beaucoup de films, de fiction, sont inspirés à partir de nouvelles, comme si la nouvelle permettait au scénariste d'avoir un champ d'investigation plus libre.
C'est vrai. Alors, je vais répondre d'une autre manière. Il est très difficile de faire une bonne adaptation, enfin bon, on peut toujours, d'un très gros livre. Voilà. Quand on arrive à 500, 600 pages, on peut toujours réussir, évidemment, hein, mais à ce moment-là, on s'éloigne énormément. Proust. Bon, j'ai lu un scénario, moi, que Visconti devait faire, qui était assez réussi, mais seul Visconti pouvait le faire. Bon. Et qui était juste une petite partie de Marcel et de l'Archevêque d'en perdu. Donc, par contre, alors, pour que vous parle de nouvelles, c'est vrai qu'une littérature plus fine qui tend vers la nouvelle est quand même, d'un point de vue presque prosaïque, beaucoup plus facile à adapter. Et tend la main vers l'écran d'une manière beaucoup plus simple. Oui, ça c'est vrai.
Alors la musique, elle est omniprésente dans votre filmographie et dans votre livre. Depuis votre premier projet de film qui devait être consacré à Coltrane jusqu'à Tous les matins du monde finalement, ou Le Môme, ce film dont d'emblée vous dites vouloir construire le récit sur une grille de variations mélodiques et rythmiques du blues. Et en guise de mise en scène, vous faites écouter la musique aux comédiens. Est-ce que la musique serait ce qui s'apparente le plus au langage du cinéma ?
Je le crois. Mais ce n'est qu'un point de vue personnel. Je pense que c'est sans doute l'art le plus proche du cinéma. Et le plus lointain, comme toujours. C'est-à-dire qu'il y a un côté immatériel, bien sûr, dans la musique, qui est le contraire de l'aspect concret du cinéma. Mais, si vous réfléchissez un petit peu, ce sont deux manières d'expression qui doivent se dérouler temporellement, d'un bout à l'autre, sans arrêt. C'est pas le cas de la littérature, c'est pas le cas de tous les autres arts, on peut avoir sa propre tempo. Y compris un roman, vous l'arrêtez, vous recommencez, il n'y a pas de problème. Bon. cinéma et musique, et il faut vraiment aller d'un point à l'autre. Vous êtes tenu à accepter le rythme général du film. Bon, deuxième point. Musique et film, au départ, il peut y avoir des idées, des thèmes. La finalité est purement sensitive, purement émotionnelle, donc très mystérieuse. Même chose sur le cinéma. On ne sait pas très bien ce que veut dire un film. On ne sait pas très bien ce que veut dire une musique. C'est un peu une auberge espagnole, selon ce qu'on veut en faire. Bon. Troisième point, et ça, on l'aperçoit quand on est au montage. Tout est à faire dans un film de rythme, de leitmotiv, de coupure, de brisure, etc. Quand vous êtes au montage, quelques images de plus, quelques images de moins, ça change tout sur un plan. Voilà. La vie arrive ou la vie n'arrive pas. Exactement comme sur une portée musicale. Donc je pense que c'est assez proche. Je suis assez satisfait d'avoir pensé que un film devait swinguer, par exemple. Voilà. Et ça, c'est la musique qui me l'a appris. Et il y a des films que j'aime parce qu'ils swingent, d'autres que j'aime moins parce qu'ils swingent moins. Voilà. J'ai cette impression-là de balancement qui existe ou qui n'existe pas. Voilà.
Votre livre « Projection privée » mentionne aussi une série de projets inaboutis à propos desquels, bon, à propos d'un projet, vous décidez de ne pas le ranger aux oubliettes, c'est Pétain, mais il y a d'autres projets que vous semblez avoir abandonnés, et quel dommage, par exemple « La marque jaune » ou le délirant roman « Martien Go Home » de Frédéric Brown.
Oui, je sais bien. À chaque fois, c'est arrivé à des contradictions techniques, économiques, etc. Il y a des fois où les projets deviennent un peu absurdes, deviennent trop chers ou trop compliqués techniquement, où on devient absorbé par les problèmes techniques et plus du tout par la finalité du film. Voilà. Donc, dans ces cas-là, à mon avis, il vaut mieux abandonner. Tous les abandons que j'ai faits, certains, c'était pas de gaieté de cœur, mais enfin, en fait, je suis pas très triste, j'ai pas eu de blessure. Voilà. C'est-à-dire que, vous savez, on peut avoir un grand soulagement à arrêter un film. Sauf si on est en préparation, bon. Mais
en tournage, je vous racontais Force à Gann qui est...
Mais là, c'est autre chose. Là, c'est des grandes difficultés de tournage qui fait qu'on continue à tourner par une espèce de force mystérieuse qui vous porte, on ne sait pas laquelle. Bon, il faut jamais s'arrêter de tourner. Non, il faut au moins faire deux plans. Même deux plans, trois plans, peu importe, mais il faut les faire. Mais là, il ne faut pas oublier la mise en scène. Il ne faut pas les faire uniquement pour les faire. Bon, mais ça peut arriver. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Bon. Mais sinon, vous savez, quand on met à la poubelle un scénario sur lequel on n'est pas arrivé à vos fins, cette journée-là est plutôt une journée heureuse. Voilà.
La décision est prise à temps d'arrêter.
Oui, mais bien sûr. Et puis, dans le fond, on est soulagé. Parce qu'il y a un moment où on a étudié tout, on a essayé dans tous les sens, et puis on n'y arrive pas. Je veux dire, voilà, c'est ça. C'est ce qui m'est arrivé sur Martien Go, par exemple. Où il y a un moment où on a tourné dans tous les sens, et puis on s'est dit, on n'y arrive pas. Je veux dire, j'arrive pas à comprendre comment faire le film. Donc, il vaut mieux arrêter. Quelqu'un d'autre le fera, ou le fera pas, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais La Marque Jaune, c'est pareil. La Marque Jaune, il y a une grande contradiction. Voilà un livre qui est écrit par un Belge, qui fait semblant d'être anglais. Et on va le faire par des Français. Et alors, quelle va être la langue des gens? Ils vont dire « by Jove » et continuer en français? C'est très compliqué. En plus, si vous parlez à un Anglais ou un Anglo-Saxon de La Marque Jaune, il ne connaît pas d'abord, premièrement. Et quand il connaît, il pense que c'est un ramassis de clichés. Donc déjà, on se dit « mais alors comment je vais... » C'est exactement comme si un Anglais faisait une bande dessinée sur les Français avec que des bérets et des baguettes de pain et le kilt de rouge. Je veux dire, eux, ils voient ça comme ça. Donc il y a un vrai problème. Dernier point, quand vous mettez l'ossature de La Marque Jaune par terre, qu'est-ce que vous avez? Une histoire assez banale de savant fou. Et Dieu sait si on l'a vu mieux maintenant au cinéma. Hein. Alors par contre, il y a la magie du livre, la magie des images. Ah, alors là, c'est là où je m'arrête. Et je me dis, est-ce que tout ne tient pas à ça? Je n'en sais rien. Je n'ai pas la réponse.
L'ensemble du livre est passionnant, et il est passionnant à différents titres. En premier lieu, il ouvre une multitude de portes vers la musique, des musiciens, des livres que, en tant que lecteur, on a envie de lire. Moi, en lisant votre livre, je me suis fait une liste de tout ce que je devais aller chercher en musique de jazz, notamment, parce que à vous entendre parler ou écrire à propos de certains musiciens de jazz, on a vraiment envie d'y aller. Et des romans aussi, notamment un roman, les romans qui évoquent l'Inde. L'Inde qui a été un moment assez, assez important dans votre parcours. Vous nous en dites un peu plus?
Oui, ça a été un coup de foudre irrationnel qui a, en un certain sens, bouleversé un peu ma vie. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai plus regardé vers l'Est que sur l'Ouest à partir de ce moment-là. Et c'est vrai que l'Inde, on parlait d'incertitude tout à l'heure, l'Inde m'a aidé. La multiplicité du sentiment identitaire en Inde est quelque chose qui est formidablement passionnant. Je ne dis pas que je connais l'Inde, je la comprends, et pourtant j'y vais tous les ans. Hein. Mais voilà un pays qui peut aider énormément à comprendre qu'on est fait de multiples choses. Et le mystère de ce que va être l'Inde dans le futur. Personne ne peut savoir aujourd'hui, vu l'explosion qui se passe en Inde. 9% de progression économique, Bombay, vous ne reconnaissez pas 6 mois plus tard. Enfin bon, et que va devenir l'Inde? Que va devenir la mystique indienne? Je n'en sais rien, c'est à eux de jouer. Hein. Mais c'est formidablement passionnant. Et puis en plus, dernier point, on dit Mother India. C'est quand même bien le réservoir. On vient tous de là. Hein. C'est, quand on est là-bas, ça se sent. Hein. Donc on n'est pas eux du tout. Et quand même, on sait qu'on est les ADN viennent de là, quoi. En grande partie, les Indo-Européens, on dit. Hein. Donc ça joue énormément. Et ça vous ouvre, en plus, dernier point sur l'Inde, parce que je pourrais en parler pendant des heures, ça vous ouvre une porte sur l'extrême-Asie. C'est-à-dire que l'Inde permet de pénétrer un tout petit peu le bout du chemin qui est le Japon. Un tout petit peu, hein. Mais vous donne certaines possibilités de comprendre un peu mieux le fonctionnement japonais. Voilà. Et quant à la littérature, alors, qu'est-ce qu'ils sont bons ? Aujourd'hui, il y a une génération d'écrivains, bengalis, bombayites, et certains à Londres, certains là-bas, qui ont la puissance de faire des romans à la russe, de 800 pages, fantastique saga familiale, qui sont absolument merveilleux, et qui parlent toutes d'un passage d'un monde à l'autre, donc qui nous concernent, directement. Et je ne vois pas aujourd'hui dans le monde des écrivains qui ont cette puissance de faire des livres épiques, hein, comme ça, qui sont d'une intelligence, d'une lucidité, d'une complexité absolument merveilleuse. Je veux dire, ce sont des gens qui ont le récit chevillé au corps, quoi, voilà. Mais en même temps, avec, j'y reviens, l'incertitude. Voilà.
Eh bien, Alain Corneau, pour conclure cet entretien, je vais citer une phrase qui je pense, résume votre engagement d'artiste. Si l'on ne prend pas le risque d'ouvrir la porte sur un tunnel dans la nuit, en décollant de la psychologie et du réalisme de bistrot pour aller vers le vertige lyrique, je crois qu'un film ne vaut pas la peine d'être entrepris. Votre livre, Alain Corneau, est de l'ordre de ce vertige lyrique. Votre livre et votre filmographie et votre vie, dans lequel le lecteur approche le mystère d'un artiste, et comme l'écrit en fin de volume Nadine Trintignant, on ne connaît vraiment jamais personne, on l'approche, on le vit, on comprend beaucoup de choses, mais sans jamais savoir ce qui nous échappe, et ce mystère est magnifique. Merci Alain Corneau.
Merci à vous, merci beaucoup.